Le débat du jour, Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. La tournée en Europe du ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi s'est achevée hier à Berlin. En le recevant, son homologue allemand Heiko Maas l'a interpellé sur la question des droits humains au Xinjiang et sur la situation à Hong Kong. Une forme de fermeté donc, et en tout cas pas le même ton apparemment que lors du passage à Paris du même Wang Yi, qui s'est soldé par une photo tout sourire avec Emmanuel Macron. La photo a fait réagir les spécialistes universitaires de la Chine. Beaucoup dénoncent une méconnaissance du pays dans les milieux politico-diplomatiques. Quelle diplomatie française et peut-être plus largement européenne vis-à-vis de la Chine? C'est la question du jour. Et pour en parler, trois invités sont avec nous ce soir. Avec nous en studio, Jean-Maurice Ripert, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ancien ambassadeur de France, notamment en Chine. Et également Antoine Bondaz, bonjour.
Bonsoir.
Vous êtes chercheur à la Fondation pour la Recherche Stratégique, spécialiste de la Chine, et c'est notamment vous qui avez alerté sur les réseaux sociaux après la visite et la photo de Wang Yi à Paris. Et par téléphone, car nous limitons toujours le nombre de personnes en studio, Gérard Arrault, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ancien ambassadeur de France aux États-Unis, auteur du livre « Passeport diplomatique 40 ans au Quai d'Orsay » paru chez Grasset, et vous avez débattu avec Antoine Bondaz sur les réseaux sociaux. Nous sommes très contents à RFI de vous permettre de dialoguer de vive voix, et on va d'ailleurs reprendre cette discussion où elle avait commencé. Antoine Bondaz, vous avez réagi à cette photo d'Emmanuel Macron avec Wang Yi qui se saluait du coude, comme cela se fait parfois depuis la pandémie de Covid-19. Expliquez-nous pourquoi.
Alors, je pense que parler de cette photo, c'était un prétexte pour parler dans le fond, pas tant de notre politique étrangère vis-à-vis de la Chine, mais que de certaines pratiques diplomatiques qu'on peut évidemment questionner. Par exemple, le président de la République a reçu à 4 reprises le ministre des Affaires étrangères Wang Yi depuis 2017, alors que notre ministre des Affaires étrangères, lorsqu'il se rend en Chine, n'a jamais été reçu par le secrétaire général du parti Xi Jinping depuis 2017, et n'a été reçu qu'une seule fois par le véritable chef d'orchestre de la politique étrangère, Yang Jiechi. Ce même Yang Jiechi, d'ailleurs, qui se rendra...
Yang Jiechi, c'est le conseiller diplomatique du Parti communiste chinois.
C'est, si vous voulez, un membre du bureau politique comité central du parti, contrairement à Wang Yi, et c'est, en termes de politique étrangère, de diplomatie, la personne la plus importante du parti. Il se rendra, d'ailleurs, en Grèce et en Espagne, mais pas en France ou en Allemagne. Un autre point, c'est donc ce manque de réciprocité. J'appelle évidemment une réciprocité par le haut. L'idée, ce n'est pas de ne plus avoir de dialogue avec la Chine. La Chine est un partenaire incontournable, tout le monde en convient, et discuter avec la Chine, c'est incontournable. Mais la question derrière, c'est est-ce qu'il est temps aujourd'hui en France d'avoir un véritable débat sur la Chine, un débat public, un débat politique? Et je serais peut-être en désaccord avec ce que vous avez dit tout à l'heure sur la méconnaissance politico-diplomatique. Il n'y a pas de méconnaissance politico-diplomatique, en tout cas pas diplomatique. Mm-hmm. Il y a peut-être une méconnaissance d'une partie de la classe politique. Mais à aucun moment, je ne critique nos diplomates, qu'ils soient basés à Pékin ou à Paris, connaissent extrêmement bien le dossier. La question se pose sur les autorités politiques et non pas sur les diplomates.
C'est moi qui ai commis un abus de langage. Gérard Arrault, ce que Antoine Bondaz a dit et vient de redire, vous a fait réagir. Pouvez-vous nous expliquer votre position, s'il vous plaît?
On m'a fait réagir, je dirais, de manière un peu technique. D'abord sur le principe, tout simplement, de la réciprocité. De deux manières. Tout d'abord, la réciprocité, il n'y a pas qu'avec la Chine qu'elle n'est pas respectée. Comme je le disais moi-même, comme je le disais en tant qu'ambassadeur à Washington, le secrétaire d'État américain, à l'exception de Kerry, et John Kerry était 30 fois à Paris parce qu'il adorait Paris, mais un secrétaire d'État américain, lorsqu'il vient à Paris, il est reçu par le président de la République. Inversement, le ministre français des Affaires étrangères à Washington n'est pas reçu par le président des États-Unis. Donc là, l'idée de réciprocité ne me semblait pas vraiment un bon procès à faire à la rencontre entre le président de la République et le ministre chinois. C'était simplement ça. C'était ça un peu le débat, en tout cas le débat technique de mon côté, en disant le fait que le ministre chinois soit reçu par le président de la République n'est pas en soi quelque chose qui puisse vraiment susciter la controverse.
Jean-Maurice Ripert, avec votre passé d'ambassadeur de France en Chine, que pensez-vous de tout ça ?
Écoutez, je vais pas me mêler de la querelle entre Antoine et Gérard qui sont deux amis, mais je suis d'accord un petit peu avec eux de ce qui est gênant de mon point de vue, et je précise que je parle bien à titre personnel, hein, puisque je ne suis plus ambassadeur en Chine depuis un an. Ce qui pour moi pose un petit problème, c'est le caractère systématique de la réception de Wang Yi par le président Macron. Wang Yi, qui n'est pas, comme vous l'avez rappelé, comme Antoine Bondaz l'a très bien précisé, qui est le plus haut responsable de l'appareil de l'État en matière de diplomatie. Et tout le monde sait qu'en Chine, ça n'est pas cela qui compte. C'est en effet Yang Jiechi qui est l'idéologue, le théoricien et l'homme du parti pour la politique étrangère. Donc le caractère systématique accroît le déficit de réciprocité. Et je crois que c'est inquiétant. Et en même temps, c'est illustrant. Gérard Araud dit, c'est la même chose aux États-Unis. Oui, c'est la preuve du comportement des pays à tendance hégémonique et de la façon dont ils voient la France. Alors la question, c'est est-ce qu'on doit l'accepter ? Jusqu'où doit-on l'accepter ? Madame Merkel n'a pas reçu Wang Yi. Giuseppe Conte, le Premier ministre italien, n'a pas reçu Wang Yi. Et pourtant, tout le monde sait que depuis un an, hein, depuis le deuxième forum BRI et le voyage de Xi Jinping en Europe en mars 2019, l'Italie s'était beaucoup rapprochée. Elle n'est pas membre de BRI au sens où on l'entend, mais elle s'était beaucoup rapprochée. Donc c'est cette répétition qui me paraît inquiétante. Il faut parler, bien sûr, Gérard Araud a raison. La diplomatie, c'est fait pour parler. Et la Chine est un partenaire beaucoup trop important pour qu'on ne lui parle pas. Nous, Français, en tant que Français, en tant que membre du duo franco-allemand, c'est extrêmement important, et en tant évidemment que future présidence de l'Union européenne. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est aussi l'Union européenne qui pèse en Chine. Mais un dernier mot, et je crois que c'est important, ça a été dit par Antoine Bondaz dans son interview à Challenge, je crois. La difficulté dans les rapports avec un pays comme la Chine, et je l'ai mesuré quand j'étais ambassadeur en Russie, c'est quand on se met en position d'infériorité, il faut dire les mots. Les symboles comptent. Les gestes comptent, les signes comptent, surtout vis-à-vis de la population et de l'opinion publique chinoise. De fait, nous nous mettons en situation d'infériorité vis-à-vis de la Chine, et je ne crois pas que c'est comme cela qu'il faille parler à la Chine.
Antoine Bondaz, Jean-Maurice Ripert vient de l'évoquer, l'Europe serait naturellement plus forte si elle parlait d'une seule voix. On sait que c'est difficile, parce que c'est des intérêts de chaque pays, mais est-ce que ça vous paraît possible de mieux se coordonner ? Par exemple, le sommet Europe-Chine du mois de septembre sera accueilli par Angela Merkel, et là, Xi Jinping sera là, est-ce que l'Europe peut parler d'une voix plus unie ?
Alors, ce qui est sûr, c'est que sur de nombreuses questions, il est évidemment difficile pour les 27 États membres de se mettre d'accord, et peut-être encore plus sur la Chine que sur d'autres sujets. Il y a par contre une tendance à l'amélioration, il faut être très clair, puisque des questions qui n'étaient pas abordées jusqu'à présent le sont désormais. Par exemple, la question d'un mécanisme de surveillance des investissements qui avait été proposé par la France, l'Italie, et ensuite rejoint par l'Allemagne, la Grande-Bretagne à l'époque, le Royaume-Uni.
C'est pour éviter, je le précise à nos auditeurs, pour éviter que des industriels chinois, des entreprises chinoises rachètent à peu près tout ce qu'elles veulent en France et en Europe. C'est l'idée.
C'est l'idée, même si évidemment cela ne visait pas exclusivement la Chine. Et puis on l'a vu ces derniers mois avec le fait de présenter désormais la Chine comme un partenaire, un compétiteur, mais aussi un rival systémique. Et donc il y a une avancée côté européen, il y a une vraie discussion sur la Chine, mais il est évidemment difficile d'avoir un consensus parce que l'intérêt de la Chine, c'est justement d'éviter ce consensus. Et ce qui est très intéressant, ce sera de voir la visite justement de Yang Jiechi, ce fameux penseur de la politique étrangère au sein du parti en Grèce et en Espagne, pour essayer de mieux comprendre l'objectif de sa visite. Il faut être très clair, l'objectif de la visite de Wang Yi en Europe, sa tournée européenne dans 3-4 pays européens, pardon, plus la Norvège, n'avait pas un objectif sur le fond, c'est un objectif sur la forme, et d'où le fait que la communication des différents pays qui ont été visités devait être structurée, devait être pensée de façon bien plus élaborée qu'elle n'a peut-être été, et je parlerai par exemple de cette rencontre et de cette photo entre le ministre des Affaires étrangères Wang Yi et le président du Conseil constitutionnel Laurent Fabius, l'ancien ministre des Affaires étrangères, qui a une relation personnelle avec Wang Yi, et ça c'est une très bonne chose. Mais le fait qu'il puisse s'exprimer en tant que président du Conseil constitutionnel, en disant que la Chine et la France sont les défenseurs et les garants aujourd'hui du multilatéralisme et du système international, est évidemment repris dans la presse chinoise, non seulement pour critiquer les États-Unis, pour faire présenter la France comme un partenaire important qui suivrait la politique de la Chine. Et puis un dernier point, Laurent Fabius étant le président du Conseil constitutionnel, ayant en charge par exemple de la l'égalité des élections, de la défense de la Constitution, c'est d'autant plus paradoxal et ironique qu'il rencontre Wang Yi, quand on voit ce qui se passe à Hong Kong, notamment sur les élections et puis sur bien d'autres sujets.
Gérard Haraud, j'aimerais revenir sur un point que vient de soulever Antoine Bondaz. Il y a manifestement une volonté chinoise de découpler l'approche américaine et européenne. Vous avez été ambassadeur aux États-Unis. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Ben, je pense que les Chinois ont raison d'essayer de le faire, hein, que tout le monde, à la place des Chinois, on essaierait évidemment de diviser les gens que nous avons en face. Hein. C'est ça la diplomatie, donc il ne faut pas s'attendre à autre chose de leur part. Cela étant, du côté américain, vous avez une certitude, et qui ne dépendra pas de l'élection, du résultat de l'élection présidentielle, c'est les États-Unis se mettent en ordre de bataille pour une confrontation stratégique vis-à-vis de la Chine. Et ce sera Biden ou Trump. Alors évidemment, la méthode sera différente, mais le fond sera plus ou moins le même. Ensuite, évidemment, la question européenne se pose. Si c'est Trump qui est élu, Trump n'a rien à faire des Européens, et donc il nous menacera, à coup de menaces, ou voire de sanctions, de faire ce qu'il entend que nous fassions face aux Chinois. Il a déjà commencé à le faire sur le 5G, où il a menacé de sanctions les pays qui adopteraient la technologie Huawei. Si c'est Biden, ça sera mieux sur le fond, mais sur la méthode, mais le fond sera un peu le même. C'est-à-dire Biden viendra nous voir en nous disant nous sommes face à la Chine, suivez-moi. Et donc, ce qu'il faudrait que les Européens fassent, et c'est ce qui a été soulevé par les deux intervenants, c'est que les Européens aient une position européenne. Parce que si nous n'avons pas de position européenne, nous aurons des Américains qui arriveront, et nous aurons, comme d'habitude, les Européens qui se diviseront, les uns suivront les Américains, les autres pas, etc., etc. Donc il est absolument capital que les Européens définissent une position de fond vis-à-vis du problème de la Chine, c'est-à-dire établir un rapport de force avec la Chine, mais établir un rapport de force sur la base, évidemment, des intérêts européens. Si nous ne le faisons pas, nous risquons de devoir le faire sur la base des intérêts américains.
Jean-Maurice Ripert, qu'est-ce qui est le plus efficace avec Pékin ? C'est la fermeté, la souplesse ? Est-ce qu'il y a une attitude que les autorités chinoises apprécient ou, je dirais, respectent davantage que l'autre ?
Pour moi, il n'y a pas de question. C'est la fermeté. Il faut que les Chinois sachent où nous sommes. Et je reviens à ce qui a été dit sur l'Europe. Il ne faut pas sous-estimer la perte que représente la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Moi, j'ai vu pendant 2 ans dans les réunions européennes, le Royaume-Uni est un grand pays qui sait quand il faut être ferme et quand il faut lâcher du lest. Pour la France, pour les ambassadeurs de France et d'Allemagne, je pense que c'est une perte. Il faut quand même, il faut le rappeler. Moi, je pense que la Chine, de toute façon, n'est pas sur la même ligne que la Russie. La Chine a besoin de l'Union européenne. Parce que malgré toutes les difficultés, l'Union européenne, c'est toujours le premier partenaire commercial et le premier investisseur étranger en Chine. Il faut se le rappeler. Comme en Russie d'ailleurs, ce que tout le monde oublie. Donc nous sommes la grande puissance économique et commerciale du monde. Ce que les Européens et les Français, tout à leur déclinisme, oublient trop souvent. Deuxième élément qu'il faut garder en mémoire, c'est que si, comme le dit Gérard Haraud, évidemment nous ne sommes pas d'accord avec la méthode du président Trump, l'Europe partage une grande partie des préoccupations américaines. Le vol de la technologie, le non-respect de la propriété intellectuelle, la non-réciprocité, la fermeture des marchés. Nous avons déposé nous-mêmes à l'OMC toute une série de contentieux parallèlement aux États-Unis. Donc le problème est de ne pas être mangé par les Américains, mais nous avons des intérêts convergents. Face à ça, effectivement, et ça a été mentionné, cette revendication du pilier du multilatéralisme, non, je ne sais pas si vous souhaitez qu'on en parle, mais il est clair que la Chine ne défend pas le multilatéralisme, ou en tout cas pas le même que celui que les Européens et la France défendent. Et donc ça, il faudra à un moment ou à un autre être ferme là-dessus.
Elle défend le multilatéralisme à condition de diriger les institutions internationales, par exemple.
La BRI, c'est, je l'ai dit plusieurs fois, c'est du multibilatéralisme, c'est une route bicyclette, il y a autant de rayons que possible, mais il n'y a qu'un centre, et ce centre, c'est la Chine. Bon, ils acceptent peut-être une petite roue derrière avec le centre américain, mais la fermeté est essentielle, pas seulement sur les intérêts, je partage l'avis de Gérard bien sûr, mais aussi sur les valeurs. Il est fondamental de dire aux Chinois, nous ne changerons pas nos préoccupations en matière des droits de l'homme. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, le développement à la chinoise, le droit chinois, les caractéristiques chinoises, c'est votre droit de le dire. Et c'est notre droit de dire que nous n'en voulons pas. Et c'est notre droit de dire que nous reconnaissons que les habitants de Hong Kong ont dit qu'ils n'en voulaient pas. Et que les habitants de Taïwan ont dit qu'ils n'en voulaient pas. Et que les Ouïghours n'en veulent pas. Et que les Tibétains n'en veulent pas. Et que depuis quelques jours, les habitants de Mongolie intérieure ont dit clairement qu'ils n'en voulaient pas. Il faut ouvrir les yeux. Nous savons ce qui se passe en Chine.
Antoine Mondaz, la diplomatie chinoise, sur tous ces sujets d'ailleurs, hein, elle est de moins en moins diplomatique, si je peux dire, et ses représentants sont de plus en plus directs, voire offensifs depuis quelques mois et la pandémie de Covid-19. Pourquoi Pékin avance ses pions un peu partout, c'est l'idée?
Alors, on a beaucoup parlé de cette fameuse diplomatie des guerriers loups, la Wolf Warrior diplomatie, du nom de ce film sorti aux États-Unis qui vante le nationalisme et la puissance militaire de la Chine. Je dirais que la crise la pandémie de la Covid-19, ça a été avant tout un catalyseur et un révélateur de tendances qui existaient déjà. Par exemple, l'expression beaucoup plus musclée de la Chine ne date pas d'hier. Allez demander aux Tchèques, allez demander aux Suédois, allez demander aux Australiens. Cela fait des années que cela dure. Exactement, aux Canadiens. Le fait que sur Twitter, les autorités chinoises utilisent cela comme un relais ne date pas de la crise de la Covid-19. J'ai fait une petite recherche sur le sujet. Vous avez aujourd'hui 151 comptes Twitter associé à la diplomatie chinoise, que ce soit les ambassadeurs, les ambassades, les consuls, les consulats, plus de 110 comptes ont été créés à partir de juillet 2019, et c'est seulement 60 comptes créés depuis janvier 2020, c'est-à-dire juste avant la crise de la Covid-19. Donc cette, entre guillemets, volonté chinoise d'imposer des éléments de langage, d'imposer un récit, ne date pas d'hier, même si elle est beaucoup plus visible aujourd'hui. Et ce qui est un changement, c'est qu'en France, on en prenne conscience, c'est-à-dire que le grand public en prenne conscience. Encore une fois, les gens qui travaillent sur la Chine, nos diplomates et autres en ont conscience depuis de nombreuses années, mais ça, c'est l'évolution. Et je prendrai juste un exemple. Vous avez en ce moment une délégation parlementaire en visite, délégation parlementaire de République tchèque,
En visite à Taïwan.
Ce qui est tout à fait leur droit. Cela ne remet pas en cause ce que nous qualifions de politique d'une seule Chine. Cela ne remet pas en cause le fait qu'il n'y ait pas de relation diplomatique entre la République tchèque et la République de Chine, Taïwan. Et pourtant, la diplomatie chinoise a menacé ouvertement la République tchèque. Le ministre des Affaires étrangères, Wang Yi, a menacé la République tchèque et ses représentants de payer un lourd tribut pour avoir fait cela. Et dans ces moments-là, il est fondamental que l'Union européenne, et ça a été fait par exemple, la présidente de Slovaquie, ça a été fait par la porte-parole du Quai d'Orsay hier, de rappeler que les Européens sont unis sur ces questions, que la Chine ne peut pas menacer l'Europe de cette façon et qu'il est dans la souveraineté de l'Europe, tout simplement, d'avoir des relations qui ne sont pas diplomatiques, mais d'avoir des relations avec, par exemple, la société civile taïwanaise.
Cher Araro, comment est-ce qu'on réagit quand on est diplomate et qu'on est habitué à une certaine forme de diplomatie? Voilà, j'arrive pas à trouver un autre mot. Quand on est confronté à ce genre d'offensive un peu dure, quoi.
Vous savez, il y en a de nouveau. Hein. Chaque pays a ses moments de durcissement qui correspondent soit à des problèmes intérieurs, soit une perception d'une menace extérieure, soit une perception qu'il y a une possibilité d'avancer ses pions. La relation, les politiques étrangères, c'est ça, c'est le rapport de force, ce n'est que le rapport de force. Donc la Chine est aujourd'hui la deuxième puissance au monde. Elle considère, on le sait, que l'influence qu'elle a dans le monde ne correspond pas à sa puissance potentielle. Elle essaye d'avancer ses pions. Et donc, de nouveau, comme je le disais, il nous revient en effet de trouver le bon équilibre entre, d'un côté, arrêter le rapport de force, et de l'autre, naturellement, la défense de nos intérêts. Parce que nous avons en Chine des intérêts majeurs, des intérêts économiques majeurs. Nous devons aussi, et ça c'est toujours difficile, en particulier sur les questions des droits de l'homme, nous devons aussi avoir une politique d'efficacité. C'est-à-dire que nous n'avons pas à faire du posture, vous voyez, du style « je condamne », mais si ça n'a aucune conséquence sur le terrain, on peut se demander aussi à quoi sert la condamnation. condamnation. Donc il y a aussi un impératif d'efficacité. Donc ce n'est pas facile. Nous devons trouver le bon équilibre, nous devons définir une politique vis-à-vis de la Chine, et c'est évident qu'étant donné les enjeux que nous avons vis-à-vis de la Chine ne sont pas des enjeux militaires, contrairement à ceux que nous avions face à l'Union soviétique. Ce sont essentiellement des enjeux, j'appellerais transversaux, économiques, économiques, mais également tout ce qui concerne la gestion de l'Internet, l'intelligence artificielle, tout. Eh bien ça, c'est dans le cadre de l'Union européenne, où nous pouvons être le plus efficaces. Et donc, ce que nous devons faire, c'est travailler au sein de l'Union européenne, et il faut bien dire avant tout avec l'Allemagne, pour ensuite pouvoir offrir, face à la Chine, offrir un front uni et un front efficace.
Jean-Maurice Ripert, vous souhaitez réagir sur ces questions économiques et commerciales, notamment.
Non, mais trois choses. La première, la règle du jeu en France, depuis des décennies, je l'ai vécu au Quai d'Orsay, c'est de passer son temps à critiquer l'hégémonie américaine. Moi, je revendique le droit pour tout citoyen français d'appliquer la même analyse critique à la Chine. Bien. Donc, je ne vois pas pourquoi on pourrait dénoncer toutes les 5 minutes les pressions américaines et qu'on devrait accepter les pressions chinoises ou russes. Puisque on peut les mettre dans le même panier.
Il y a une forme de tradition gaullienne qui...
Oui, mais ça n'est pas du gaullisme. Mmh. Ça n'est pas vrai. Car à chaque fois que la sécurité de la France ou de l'Europe était en cause, la France savait dans quel camp elle était. Donc ça, c'est la vision du gaullisme que les Chinois et les Russes veulent voir. Ça n'est pas la tradition de la diplomatie française, et je pourrais citer beaucoup d'exemples. Deuxième chose, sur les droits de l'homme, bien sûr, la question, c'est l'efficacité. Il y a un moment où simplement on ne peut plus l'accepter. Quand des millions d'habitants de Hong Kong descendent dans la rue, quand pour la première fois, avec un taux de participation de plus de 70%, les Chinois de Hong Kong votent contre la Chine de Xi Jinping. Il ne s'agit pas d'être efficace, il s'agit de soutenir des gens qui s'expriment au nom de la démocratie que nous réclamons pour nous-mêmes. Nier la nécessité de les soutenir, alors c'est quoi notre vision de la démocratie? C'est pour nous et c'est pas pour les autres. Et excusez-moi de parler du Xinjiang et de dire des choses épouvantables. Au Xinjiang aujourd'hui, il y a des avortements forcés.
Des stérilisations
forcées.
Au
Xinjiang aujourd'hui, on enlève des enfants. Ça vous rappelle rien?
Oui, hein, il y a des camps.
Les capitaines et les colonels argentins qui enlevaient les enfants des opposants, qu'ils jetaient par-dessus bord dans des avions dans la mer pour les donner à des familles qui n'avaient pas d'enfants, que disait-on à l'époque? Moi, je le dis, au Xinjiang, il y a une situation où la question n'est pas d'être efficace. On ne peut plus tolérer ce qui se passe, et il y a une convention internationale contre le crime de génocide. Troisièmement, et je crois que c'est ça qui est important, la situation n'est pas tout à fait la même, la guerre. Gérard Haro lui-même a parlé du cyberespace. C'est une forme de guerre qui est en train de s'y dérouler. Et puis, par ailleurs, j'attire votre attention sur ce qui se passe dans l'Himalaya. Il y a des morts quasiment tous les jours maintenant.
Entre Chinois
et Indiens. Et que va-t-il se passer en mer de Chine méridionale? Que va-t-il se passer si demain les Chinois, comme Poutine l'a fait avec la Crimée, décident d'annexer purement et simplement et de créer une région spéciale de la mer de Chine méridionale? Nous serons de fait dans une situation de conflit. Dernier point, et je crois que c'est important, bien sûr c'est l'Europe qui doit parler avec l'Allemagne et la France, mais aussi beaucoup d'autres pays, parce que nous ne pouvons pas nous-mêmes diviser l'Europe sur la politique chinoise. Et surtout, je pense qu'il est temps de retrouver un narratif positif en Europe sur les relations avec la Chine, sur le multilatéral. Il faut regagner les cœurs des pays qui ont rejoint la Chine dans ces combats douteux de l'initiative Ceinture et Route.
Antoine Bondaz, je reviens sur le point que vous souleviez en début d'émission. On a l'impression que cette question de la relation avec la Chine n'intéresse pas vraiment le personnel politique français, que ça n'est pas un objet de débat, un objet politique, alors que c'est quand même, le Gérard Haro le disait, la deuxième puissance du monde.
Je pense qu'il y a deux points qui sont importants. Le premier, c'est qu'il y a quand même un fantasme sur l'idée que la Chine est un partenaire économique incontournable, qu'elle aurait de tels leviers face à la France, qu'évidemment, nous ne pourrions rien faire. Il faut rappeler quelques points extrêmement précis. Le commerce avec la Chine, c'est 10 fois moins que le commerce avec l'Union européenne, du point de vue français. Le commerce avec la Chine, c'est 2 fois moins que le commerce avec l'Allemagne. Les investissements français en Chine, puisqu'on en parle beaucoup, en 2016, c'était 300 millions d'euros. En Allemagne, au même moment, c'était 9,3 milliards d'euros. En 2017, les investissements français en Chine étaient des désinvestissements. On a retiré 1 milliard d'euros d'investissement quand on en mettait quasiment 9 milliards en Allemagne. Donc l'argument de dire que la Chine, c'est un Eldorado économique, qu'elle c'est extrêmement important, c'est important. Mais c'est surtout important pour des très grandes entreprises françaises qui se sont exposées sur le marché chinois et qui, comme des entreprises de Corée du Sud, d'Australie, feraient mieux de diversifier leurs investissements, de diversifier leurs marchés afin d'être justement moins l'objet de menaces de représailles économiques qui ont évidemment des conséquences politiques. Et puis l'autre point, c'est le manque en France, encore une fois je le rappelle souvent, d'un débat sur la Chine, mais aussi on n'en a pas forcément les moyens. Vous allez aujourd'hui en Allemagne, vous avez des centres de recherche qui travaillent uniquement sur la Chine. Vous avez par exemple le Merix, créé en 2013, qui a 25 chercheurs uniquement sur la Chine. Vous avez des hommes politiques allemands, que ce soit le président de la commission des affaires étrangères du Bundestag, que ce soit le président de la délégation pour les relations avec la Chine au Parlement européen, monsieur Butikofer, qui s'exprime régulièrement sur la Chine. Pas seulement sur les droits de l'homme, pas seulement sur le Xinjiang, sur l'ensemble des sujets. Vous avez au Royaume-Uni la création d'un groupe de travail au sein des conservateurs sur la Chine, le China Research Group. En France, vous n'avez rien de tout ça. Vous n'avez pas cela au sein des partis politiques, vous n'avez pas cela au sein de l'Assemblée nationale, et c'est cela qu'il faut peut-être changer, qu'il y ait un débat, qu'il y ait des arguments, et ensuite qu'il y ait des décisions qui soient prises, évidemment, par le pouvoir politique et les élections.
Alors Gérard Araud, la Chine, c'est un objet du débat politique aux États-Unis. Alors c'est Donald Trump qui s'en sert beaucoup avec ses mots à lui, sa façon de faire, mais au moins on en parle, et c'est au centre du débat, il en parle à sa façon, mais il met ça au centre de la question.
Tout à fait. C'est lui qui a mis le sujet sur la table. Et dans un pays qui est polarisé, où il n'y a pas beaucoup de sujets de consensus, la Chine est devenue un sujet de consensus sur le fond, comme je l'ai dit. La Chine est l'adversaire stratégique des États-Unis pour les décennies qui viennent. Ensuite, de nouveau, selon la méthode sera certes différente si Joe Biden est élu. Mais le pays se met en ordre de bataille, on recense les étudiants chinois pour savoir dans quelle spécialité ils sont, dans quel laboratoire ils sont. On met en place aussi on utilise des mécanismes qui existent déjà pour le contrôle des exportations, des investissements dans les secteurs particulièrement sensibles. Et il y a naturellement l'idée de l'Indo-Pacifique, c'est-à-dire l'idée de constituer une coalition Indo-Pacifique qui aille de l'Inde au Japon, en passant par l'Australie, le Vietnam, etc. Donc le pays se met en effet en ordre de bataille. Du côté chinois, en effet, il y a les incidents dans l'Himalaya auxquels se référait Jean Maurice. La diplomatie, c'est aussi se mettre dans les chaussures de l'autre. Là, je vais me contenter des deux autres participants au débat. Et c'est vrai que du coin de vue chinois, les Chinois peuvent aussi penser que les Américains essayent de les encercler. Les incidents qui ne sont pas nouveaux d'ailleurs dans l'Himalaya, ça peut être aussi un avertissement des Chinois aux Indiens, ne vous mêlez pas de cette entreprise, puisqu'on parle même de la création d'un OTAN dans le Pacifique, c'est-à-dire une organisation militaire sous commandement américain face à la Chine.
Jean-Maurice Ripper, il nous reste très peu de temps en fait, si vous voulez juste ajouter quelque chose, vous avez une petite minute.
Deux mots, je suis d'accord sur l'absence de débat en France, à ceci près qu'il y en a, et ces débats sont organisés par l'ambassade de Chine, je n'y suis jamais invité d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, avec l'aide de ce que j'ai appelé les Français pandas, c'est-à-dire toute une série de Français qui ne voient pas d'inconvénient à leur faire leur publicité. Sur la difficulté Inde-Chine, un mot, la France a choisi à mon avis à juste titre de défendre également une stratégie Asie-Indo-Pacifique, avec comme piliers l'Inde, l'Australie et le Japon. Je pense que c'est un choix raisonnable. Il ne s'agit pas de mettre les chaussures américaines, mais il s'agit de défendre nos intérêts avec les plus grands pays de la région. Je rappelle que nous avons d'énormes intérêts dans l'océan Indien et dans l'océan Pacifique.
Merci Jean-Maurice Ripper. Merci à vous d'avoir participé à cette émission. Merci à vous Antoine Bondaz et merci à Gérard Araud d'avoir poursuivi ce débat entamé sur les réseaux sociaux sur l'antenne de RFI. Merci à toute l'équipe du débat du jour. Florence Ponce à la coordination, Simon Carteret à la documentation et à la réalisation, aujourd'hui Laurent Philippot. Vous pouvez nous retrouver, nous réécouter, nous podcaster sur notre site internet RFI.fr ou sur nos applications mobiles comme RFI Pure Radio, rubrique émission. Vous pouvez aussi participer au débat du jour sur les réseaux sociaux. Le prochain débat, c'est demain, même heure, même endroit, dans moins d'une minute, le journal. Prenez soin de vous et des autres. Bonjour chez vous.